blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Mélanie Gonduc, on se retrouve dans ce musée de bagne dont on a dit qu'il était éclaté en plusieurs sites. On n'a pas cité le barrage de Montvoisin d'ailleurs en été, hein, des expos photos aussi sur le barrage. Il y en a une qui va commencer cet été, comme chaque été depuis 10 ans, j'ai vu ça.
Oui, on a juste eu 2 ans où on n'a pas pu exposer sur le couronnement du barrage, mais là ça reprend cette année. C'est des expositions qui sont proposées par Jean-Paul Felet, et c'est souvent de la photographie. Et là cette année on aura John Herson.
En très grand format. Hein.
En très grand format, qui sont comme une sorte de travelling sur le couronnement du barrage. Et cette année on a John Herson, qui est une artiste française qu'on se réjouit de présenter aux promeneurs qui vont jusqu'à Montvoisin.
Bon, ça veut dire qu'on doit avoir à votre place un œil sur tous ces sites. Alors vous dites, la plupart d'entre eux, ce sont des collections permanentes, il n'y a pas trop de boulot, si je puis dire, à faire là autour. Et puis, il y a ce centre de bagne, le musée, avec, je le disais aussi en première partie, mais on va peut-être y passer un petit moment, plusieurs rôles, hein, à la fois un rôle de mise en valeur de ce qui se fait aujourd'hui, des artistes d'aujourd'hui, et un rôle de mise en valeur de vos collections, des objets, d'un savoir-faire ancien.
Oui, tout à fait. Là, je pense que c'est là que mon rôle a un tout petit peu changé depuis que j'ai repris la direction. C'est que jusqu'à maintenant, j'avais plutôt un rôle de curatrice. Donc, je proposais des expositions thématiques, je m'occupais de la publication. Et maintenant, je vois beaucoup mieux ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut tout articuler ensemble. Et il y a quelque chose de passionnant, mais où aussi il faut bien connaître la collection. Et aussi, il faut donner une sorte de direction au tout. Et c'est maintenant sur ça qu'on travaille avec mon équipe, donc la responsable de la collection Mélanie Roux et Roxane Giroux qui est la médiatrice, où on essaye vraiment de sortir une voie qu'on va emprunter, et ça balise aussi quelque part notre travail.
J'ai vu dans l'expo actuelle par exemple, hein, qu'on va évoquer, ça s'appelle
Faire avec,
hein. Un peu une vision de ce que pourrait être un avenir incertain, difficile. Il y a des artistes tout à fait contemporains, Montezan, Ludovic Chappet par exemple, qui a participé.
Oui, tout à fait. Et cette exposition, elle est assez représentative de la première année de direction, dans le sens où j'avais aussi à cœur de parler de la collection du musée. Donc l'idée de l'exposition, c'est que c'est une exposition d'anticipation. Dès que les visiteurs passent la porte du musée, ils arrivent en 2080 dans une région alpine qui a été bouleversée par les crises écologiques, économiques, climatiques, et des gens en fait sont venus dans ce qui était un musée. Et ils se sont emparés, ils ont repris en main ce qui avait été jadis conservé pour essayer de donner des pistes aux suivants qui viendraient sur la façon de réapprendre à faire avec ce qui avait été conservé, et aussi de rediscuter des qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme relation nouvelle entre vivant et milieu. Donc quelque part, c'est vraiment prendre au pied de la lettre la raison pour laquelle la collection a été faite, garder ces objets pour ne pas oublier les pratiques, et de proposer aux visiteurs d'être un tout petit peu déséquilibré, de se dire « Ah ben aujourd'hui on est en 2024, mais on doit se projeter en 2080 et avec ce qu'on a gardé. » Donc c'est vraiment dans ce sens-là que...
C'est terriblement dans l'époque. Hein. On en parle dans plein de domaines où on se rend compte que finalement l'avenir c'est le passé. Hein. Mm-hmm. Si on veut être plus raisonnable, consommer moins, etc. Le seul avenir devant nous, on parle souvent de sobriété, c'est un mot qui fait peur dans le discours politique, mais si on dit simplement bon, « on va peut-être faire comme nous grands-parents, on va réparer à la place de jeter, on va réutiliser, etc. »
Il y a déjà quelque chose de bien.
Ouais, l'avenir, c'est le passé. Vous êtes dans cette thématique-là.
Alors, il y a d'une part ça, que l'avenir pourrait être... pourrait s'inspirer du passé, mais en même temps, il y a aussi toute une partie où on se rend compte qu'il y a de nouvelles alliances à penser, qu'il y a de nouvelles relations de pouvoir aussi à discuter, à interroger, et l'exposition les prend les deux. D'ailleurs, si on voit par exemple la littérature de collapsologie, de bouleversement, ça c'est une professeure de littérature qui a fait une recherche là-dessus, elle montre qu'en général, ces récits s'inspirent dans le passé, mais aussi sur des alliances qui sont encore inexistantes, où on voit que parfois, pour ces populations qui vivent dans le dénuement après une crise, ils vont soudain s'allier à des végétaux, ils vont comprendre les langages des animaux. Donc on voit qu'il y a à la fois, oui, source d'inspiration du passé, mais aussi sur des alliances qui ne sont pas encore advenues, mais qu'on sent aussi, comme vous le disiez tout à l'heure,
nature, ouais.
Voilà, où on sent qu'actuellement, il y a beaucoup d'études en éthologie, dans la biologie, pour essayer de comprendre différemment et voilà, et remettre aussi en question ce côté que vous disiez humanisme, où on croit qu'on est dans une société égalitaire, mais quelque part on est dans une société égalitaire si on est blanc, plutôt masculin et occidentaux. Donc il y a aussi toutes ces questions de rapport de pouvoir.
Bon, j'en reviens aux missions du musée. J'ai vu qu'il y a une partie de la mission, c'est tout ce qui est lié aux catastrophes naturelles. On connaît la catastrophe de Jétro, cet éboulement gigantesque avec beaucoup de morts, un traumatisme dans la région jusqu'à Martigny. Y a quelque chose là aussi d'un savoir-faire qui est entré au patrimoine de l'UNESCO d'ailleurs, la gestion des avalanches par exemple, que vous sauvegardez aussi.
Alors là, on a une collection, nous, qui se rapporte plutôt justement à la débâcle du Jétro, qui sont plutôt des archives, et actuellement, on est en train de réfléchir sur qu'est-ce qu'on pourrait collecter actuellement sur ces thématiques-là. Est-ce que c'est plutôt un patrimoine immatériel de l'oralité, de ces savoir-faire dont vous parlez? Est-ce que c'est aussi toute la relation à l'implantation des maisons dans un territoire où il peut y avoir des éboulements, etc. Donc ça, oui, c'est une recherche qui est en cours.
Il y a tout un pan aussi sur la religion, hein, les ex-voto par exemple, mm-hmm. les actions de grâce, mm-hmm. j'imagine, quand quelqu'un a échappé à la catastrophe. Ça, c'est un pan d'histoire, y compris d'histoire de l'art, d'ailleurs, mm-hmm. important.
Alors d'ailleurs, il y a une salle qui thématise on a présenté des ex-voto, ils ne viennent pas tous, d'ailleurs, du Val-de-Bagne, mais pour montrer justement ce rapport aux forces supérieures, quand il y avait une médecine différente que la médecine biomédicale qu'on connaît, c'est vrai qu'on s'adressait aux forces supérieures pour avoir un enfant, pour être guéri, et il y avait ce remerciement. Et ça pose toute la question, est-ce que dans un futur où peut-être on aura moins de facilité d'être soigné par la médecine qu'on connaît, est-ce qu'il y aura ces recherches d'autres significations, d'autres relations à la mort, à la santé du corps, au bien-être, etc.
Comment il se porte ce musée de Bagne, Mélanie Hugonduc? On vous entend, on sent qu'il y a une vraie réflexion qui fait partie de la révolution des musées. Mm-hmm. Hein, c'est plus des vitrines mm-hmm. poussiéreuses avec des étiquettes. Il y a une vie réellement dans ces musées. Quand ils sont un peu périphériques, c'est compliqué. Ils font partie de l'enjeu touristique aussi.
Alors c'est évident qu'il y a cette double relation. D'une part, on est périphérique, donc c'est clair que les gens, la majorité des gens qui viennent dans le Val-de-Bagne ne viennent pas pour venir au musée, mais plutôt pour se promener dans le territoire.
Il y a un musée.
Voilà. Voilà. Après, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. On peut les étonner.
Peut les choper par
voilà,
hasard.
Ouais,
c'est ça.
Ouais. Et puis, on peut les étonner parce que, comme vous dites, il y a quand même cette représentation qu'un musée régional, ça va forcément être un peu décati et désuet, ce qui peut être aussi très bien. Mais souvent, les gens sont assez étonnés et reviennent. Et c'est vrai que là où on essaye aussi d'attirer des publics différents, hier, on a eu par exemple la journée des familles où c'est des jeunes publics. Donc il y a vraiment, c'est vraiment un outil. Et alors après, bien évidemment, on est inscrit dans un territoire particulier, mais il y a une grande liberté ici grâce au soutien de la commune de Bagne qui est donné pour suivre ces voies-là, ces pistes-là. Et c'est vrai que voilà, ça donne aussi un enthousiasme qui, je l'espère, on sent dans l'exposition.
Je parlais du lien évident avec le tourisme. On a parlé il y a quelques jours dans cette émission du plan de développement régional, le PDR Grand Entremont, le fait que le tourisme, l'agriculture, cette agriculture dont vous sauvegardez le passé d'ailleurs, quel est le rapport que vous avez avec ces grands projets très identitaires dans cette vallée?
Alors, on peut avoir des relations peut-être un tout petit peu factuelles, des fois, voilà, de demander quand on fait des apéros, est-ce que, ben voilà, on va leur demander conseil, parce qu'on ne connaît pas forcément toutes les filières locales, donc on apprend aussi à les connaître. Et puis après, pour moi, il y a aussi cet enjeu de donner aussi la parole, de relayer la parole d'agriculteurs qui... en fait, se sont énormément adaptés, et c'est vrai qu'on a tendance à valoriser une agriculture qui n'existe plus, et de beaucoup moins montrer cette adaptation, cette réflexion constante des agriculteurs pour tirer leur épingle du jeu pour produire aujourd'hui dans un contexte qui est très complexe. Et ça, je pense que c'est aussi le rôle d'un musée, c'est de référer ce contemporain, ce présent, et puis de les laisser la parole à ces personnes-là, de montrer que...
Ces personnes du présent qui décident un peu l'avenir aussi.
Parce que c'est vrai qu'il y a... on est dans une région périphérique alpine, il y a aussi beaucoup ces regards entre des urbains qui viennent ici et qui ont leur regard sur la montagne, et je trouve très important de relayer aussi les regards, les discours des personnes qui vivent ici. Et c'est là qu'on peut arriver à des terrains communs. Le rêve, c'est d'arriver à du terrain commun où, en fait, ces populations qu'on croit distinctes peuvent discuter, peuvent s'entendre sur certains points qui sont parfois très séparés, très mis en opposition. Et je pense que là, il y a vraiment un rôle du musée à jouer.
Parler de populations distinctes, il y a des populations des deux côtés de la montagne, hein, ça va être ma dernière question. On est sur un axe nord-sud, un des plus importants d'Europe occidentale en tout cas, hein, le Grand Saint-Bernard, millénaire. La proximité de l'Italie, du Val d'Aoste, d'un point de vue culturel et patrimonial, c'est quelque chose aussi sur lequel vous travaillez ?
Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que... En fait, ça, c'est notre société, elle a tendance, notre culture, elle a tendance à identifier toujours la différence. Et quand on s'intéresse justement aux Alpes italiennes, on se rend très très bien compte qu'il y a beaucoup de terrains communs. Donc c'est toujours intéressant.
Y compris dans la langue, dans le lieu-dit.
Exactement, et de voir en fait qu'il y a des relations qu'on peut tisser très très vite en montrant par exemple des objets. On n'a pas du tout besoin de faire de théorie là-dessus pour voir qu'il y a des usages qui sont identiques. Et que en fait ce désir de singularité, ben, il vient aussi de la consommation, de dire ben, ici on a un fromage, il est unique. Et Isabelle Rabou disait cette jolie phrase, elle disait... les fromages existent depuis bien plus longtemps que le temps qu'on accorde de l'importance à leur régionalisme. Et je trouve ça intéressant parce que c'est là qu'on voit qu'en fait il y a du commun, qu'avant les fromages, les savoir-faire sur les fromages, ils se partageaient. Je veux dire, c'était pas le savoir-faire italien, le savoir-faire valaisan, non, c'était des fromagers qui venaient d'Italie, qui venaient travailler là. Et je trouve que c'est très important de le montrer parce que ça donne aussi de l'ampleur, ça donne aussi ça interroge comment on s'identifie, à quel point ça peut être réducteur de toujours jouer sur ces portraits un tout petit peu
identitaires des uns et des autres. Moi j'irais même plus loin que vous, hein. Je suis sûr qu'on va dans les Pyrénées, on a les mêmes pratiques, on a les mêmes et probablement dans l'Himalaya, etc.
Totalement.
Il y a un truc avec la montagne qui est probablement universel, mais on va en rester là. Merci à vous pour votre accueil, Mélanie Gonduc.
Merci.